création on air. On air. On air. Creation on air.
La plupart des musées ont une réserve d'œuvres inconnues dans leur collection. Un fonds refoulé, remisé aux oubliettes, dont la paternité est perdue ou la signature est devenue illisible. Depuis 20 ans, le plasticien Alexandre Périgot constitue un musée des anonymes qui pose la question suivante. Faut-il avoir un nom pour avoir une valeur ? Création on air, mon nom est personne, d'Alexandre Périgot et Véronique Lamandour.
On nous impose des images, des emblèmes, des symboliques. Les chômeurs, c'est des chiffres et des statistiques, quoi. Les retraités, c'est des privilégiés, c'est une génération dorée, comme a dit un député. Ça, ce sont des images que l'on accole à des groupes d'hommes et de femmes. Par contre, ceux qui réussissent, c'est des hommes bien précis. C'est Bernard Arnault, qui est troisième ou premier au top 5 des plus riches de France. Et puis là, il y a une forte médiatisation, des grandes fortunes, le palmarès de Forbes et autres, ben, bref. On nous impose en réalité des marques. On les impose à toute la société. Le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que la plus grande masse d'individus, elle se sent dépossédée de son identité, d'une certaine manière. Et on constate dans nos sociétés une quête permanente de reconnaissance et d'identité, avec tous les dangers que cela peut entraîner. La recherche d'identité dans des formes les plus extrêmes et les plus horribles que l'on puisse connaître. Quand on n'a plus d'identité, on va chercher les basiques, la couleur de peau, la nationalité, et ça ferme des gens d'extrême droite qui, partout dans l'Europe, qui n'ont d'autre quête d'identité que celle de la nation, de la couleur blanche de leur peau, bleue de leurs yeux, enfin bref, chose que l'on redoute, mais que l'on sait.
Dans le village où j'habite, on a un étranger. Quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là, ça, c'est l'étranger, comme un objet. On n'a pas de respect. Quand on a du respect pour un être humain, on ne dit pas ça, là, c'est pas ça. Non, non, on dirait ce monsieur. Quand sa femme passe l'étrangère, baissant la tête, on dit celle-ci, c'est l'étrangère.
Est-ce que tu es anonyme ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
État de la personne ou de la chose qui est anonyme ? Anonyme. C'est un emprunt de la Renaissance, 1540. Ça vient du grec anonymos, sans nom, de âne, absence de, et de onoma, nom. Anonyme signifie dont on ignore le nom propre et qui cache son nom. Ce sont des écrits dont l'auteur est ou reste volontairement inconnu. Écrivain anonyme. Un ou une anonyme, personne qui ne se distingue pas de ses semblables. Faire un secret de son nom. Une collection d'anonymes, ouvrages dont on ne connaît pas les auteurs. Et puis, anonymement, s'anonymiser. Mais encore, en termes de psychiatrie, concernant la tendance pathologique à écrire des lettres anonymes, anonymographe et anonymographie. On pense à Henri-Georges Clouzot et au Corbeau.
Hello, citizens of the world. We are anonymous.
L'anonymat, c'est peut-être aussi quelque chose qui se joue par degrés. C'est-à-dire que on dit se faire un nom, par exemple, ce qui veut dire que c'est la construction d'une notoriété, mais aussi on parle de sombrer dans l'oubli. Et je trouve intéressant cette idée qu'en fait l'anonymat peut être à la fois quelque chose qui peut être vécu comme de l'ordre de la victime, les victimes d'être dans un état d'anonymat. Et en réalité, c'est aussi un point depuis lequel créer, en fait. Et depuis peut-être créer dans une posture assez solide en définitive. Je pense au jardin d'Épicure où en fait c'était l'idée « vivons cachés hein, ». Et c'est cette idée que peut-être quelque chose se fait de profondément investi, justement engagé, précisément parce qu'il n'y a pas l'interférence de la question de la notoriété. Que la chose est engagée pour elle-même en vertu de ce qu'on a la conviction intime qu'elle est et qu'elle doit être.
Auteur anonyme.
Je ne sais pas qui est le compositeur de ce groupe.
Michel Foucault répond. Chez nous, les personnages font la loi à la perception. Les yeux se portent avec prédilection sur les figures qui vont et viennent, surgissent et disparaissent.
Pourquoi je vous ai suggéré que nous utilisions l'anonymat
par nostalgie du temps,
étant tout à fait inconnu,
par nostalgie du temps, étant tout à fait inconnu,
avec le lecteur éventuel, la surface de contact était sans rides. Les effets du livre rejaillissaient en des lieux imprévus et dessinaient des formes auxquelles je n'avais pas pensé.
Les effets du livre rejaillissaient.
Je proposerai un jeu, celui de l'année sans nom. Pendant un an, on éditerait des livres sans nom d'auteur. Les critiques devraient se débrouiller avec une production entièrement anonyme.
Je proposerai un jeu, celui de l'année sans nom.
Tous les auteurs attendraient.
Pendant un an, on éditerait des livres sans nom d'auteur. Les critiques devraient se débrouiller avec une production entièrement anonyme. Mais j'y songe, peut-être n'aurait-il rien à dire. Tous les auteurs attendraient l'année suivante pour publier leurs livres.
Les auteurs comme les journalistes et les livres des autres comme ceux d'Ajar, c'est un monde, c'est une chose qui tient debout. C'est pour ça que l'art dure, l'art a un rôle de je ne sais quoi, mais ça me paraît assez simple. Cela dit, moi j'étais quand même assez confortable dans ce mensonge, tout en le supportant très mal. J'étais un employé à la fois en termes d'image, de porteur d'œuvre, d'Ajar vivant, et un employé aussi aux écritures, c'est-à-dire dactylographe dans le cas du pseudo.
Anonyme est l'infirmière qui s'occupe des mamies à la maison de retraite. Anonyme sont les gardes du corps du sénateur, toujours avec cette heure grave. Anonyme est la jeune fille qui t'a harcelé hier soir dans la rue. Franchement, t'as même pas son prénom. Anonyme est qui a décidé d'augmenter la cotisation de ta mutuelle. On t'avait dit d'arrêter la clope. Anonyme est le codeur qui a écrit l'algorithme qui a déterminé le prix de ta mutuelle.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, me faire classer puis déclasser ou numéroter. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, me faire classer puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Un auteur célébrissime dont à dessein je préserverai l'anonymat, mais que tout le monde reconnaîtra, a livré en note à la fin de l'un de ses ouvrages, comme pour ne le réserver qu'au lecteur attentif, ce récit d'une mélancolie infinie. Ainsi j'observais par désœuvrement naguère, sur le quai du Vieux-Port à Marseille, peu avant la chute du jour, un peintre, étrangement scrupuleux, luttait d'adresse et de rapidité sur sa toile avec la lumière déclinante. La tache, correspondant à celle du soleil, descendait peu à peu avec le soleil. En fin de compte, il n'en resta rien. Le peintre se trouva soudain très en retard. Il fit disparaître le rouge d'un mur, chassa une ou deux lueurs qui restaient sur l'eau. Son tableau, fini pour lui, et pour moi le plus inachevé du monde, me parut très triste et très beau. Alors on n'aura pas de peine à reconnaître dans ce fragment une ekphrasis, c'est-à-dire le récit embelli d'un fait de peinture, dans la tradition d'Homère ou de Virgile. Toutes les règles du genre sont respectées, mais inversées, en miroir, car ce qui est célébré dans ce texte, c'est la faillite de toute entreprise visant à emprisonner, si peu que ce soit, le flux des choses et des mots. C'est l'émouvante inaptitude du peintre à saisir l'objet de sa peinture, incarné par le Frenhofer du chef-d'œuvre inconnu, mais aussi par le peintre anonyme du Vieux-Port, auquel je tenais à rendre ce bref hommage, pour que parmi les anonymes, il ne soit pas oublié.
Martin Margiela.
J'aime bien penser que l'anonymat est une chose possible.
Martin Margiela.
Léonore Knaster. Lee Lozano. Lee Knaster. Lee. Qui fut cette femme au nom pluriel? Appelée Lee. I. Une artiste qui fera de son nom une véritable question d'art. Un retrait vers l'anonymat. Comme un choix et argument de pensée. Un nom, une notoriété, un nom, un anonymat. Eux refusent d'adresser la parole aux femmes. Ce refus était programmé pour une durée seulement d'un mois. Finalement, sa position s'éternisera jusqu'à son décès. Pour elle, les femmes ne détiennent aucun pouvoir. Elle n'aura affaire qu'avec les hommes et n'aura plus de contact avec les femmes. Eux persistera, femme debout, érigée comme ces phallus qu'elle a tant dessinés. Elle devient une femme hors des femmes, hors des lieux communs, hors du temps et d'elle-même.
Souvent, les dealers de drogue sont anonymes. Anonymes sont les chauffeurs d'ambulance.
Nous distinguons généralement les anonymes de ceux qui ont un nom. Un nom connu, c'est-à-dire publiquement reconnu. On parle ainsi de se faire un nom, de sortir de l'anonymat dans son domaine, l'art, la littérature, etc. Par ailleurs, dans notre société du spectacle, ne pas être anonyme, ce n'est pas seulement avoir un nom, quel que soit le degré de reconnaissance qui lui est associé, c'est aussi avoir un visage. Ce que l'on appelle par exemple la reconnaissance faciale est le dispositif technique qui permet d'associer un visage à un nom, répertorié pour le meilleur ou pour le pire, dans des fichiers consignant l'identité.
Peux-tu me parler de l'anonyme dans l'art pariétal ?
Bien sûr.
M'intéressant aux grottes ornées, je me suis rendu compte que notre provenance humaine, la plus ancienne, surgissait sur fond d'anonymat. Sans nom, sans visage et sans voix, ce passé nous regarde. Mais pour nous dire ou nous montrer qui ou quoi.
Amigos, mucho gusto en saludarlos. Tenemos el privilegio de estar justamente en la última función de un personaje, de un auténtico personaje de la lucha libre, del deporte mexicano, del deporte mundial, que es justamente el enmascarado de plata, el santo, que este domingo, que es fecha memorable.
Ou Marina Abramovic.
Banksy, le groupe de musique électro.
Oh, j'y connais rien, j'écoute pas ce genre de musique.
Daft Punk.
Alors, ce qui me plaît aussi dans les œuvres anonymes, c'est qu'on est obligé d'avoir une certaine fraîcheur dans son jugement, qu'on est obligé de prendre une position esthétique ou artistique libre, personnelle, qu'on ne peut pas se raccrocher à l'anecdote, à la biographie. On est tout de suite sur l'essentiel dans ses peintures, par exemple, hein, puisque moi je traite le plus souvent de peinture. Et pour essayer de vous donner une idée concrète de ce que j'entends par ces tableaux anonymes qui séduisent, j'ai pensé à trois tableaux d'une collection que j'ai conservée, qui est le musée Fesch à Ajaccio. Et trois tableaux. Le premier, c'est une mère à l'enfant, avec un enfant. C'est un portrait. Et j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi ce tableau me fascinait et pourquoi il me rebutait aussi en même temps, parce que l'œuvre d'art qui attire, elle peut attirer aussi de façon un peu négative. Cette femme, elle avait un enfant totalement emmailloté et j'ai mis du temps à voir les larmes qui étaient au coin de ses yeux et à comprendre qu'en fait son enfant était mort. Et moi, en tant que femme, ayant des enfants, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée. Et c'est un des tableaux, quand je vais en Corse, eh bien, je vais toujours le voir parce que j'ai laissé quelque chose de ma tendresse, d'un certain attendrissement et d'une certaine générosité de cœur vis-à-vis de cette femme qui pleure son enfant. Il y avait un deuxième tableau que j'aimais beaucoup, qui me plaisait beaucoup, qui était aussi anonyme, qui a peut-être été attribué depuis, qui était peint sur cuivre. Et quand on l'éclairait, notamment au moment où on le restaure et au moment où on le photographie, on voyait bien les yeux. On voit que les yeux, effectivement, on dit que c'est un autoportrait parce qu'il a le regard un peu de biais et qu'on, c'est comme ça que les autoportraits sont faits en se regardant un peu de biais dans une glace. Et cet homme qui était un peu vieux, qui avait une tête qui pouvait être éventuellement celle d'un prophète, pour laquelle il n'y avait aucune inscription, c'était une belle tête, c'est la tête de quelqu'un qui a vécu et c'est quelqu'un qui me parlait. Et là aussi, j'ai laissé un dialogue en suspens vis-à-vis de ce portrait. Et puis un troisième tableau qui était un Saint Jean-Baptiste, qui était un tableau, je dirais, relativement médiocre, assez grossier. caravagesque, mais qui interpellait. Et alors là, j'ai eu du mal à dire que je l'aimais beaucoup. Je voulais le mettre près de l'entrée pour interpeller un peu le visiteur qui venait faire la visite, faire le parcours dans les salles. Mais on m'a dit que ça n'était pas possible pour des raisons de sécurité. Et puis bon, qu'il était un peu aussi rebutant. Et finalement, c'est quand j'ai fait visiter à un ami artiste qui m'a dit que ce tableau-là aussi l'interpellait, que j'ai osé dire, ben oui, il est grossier, il n'est pas très bien peint. On ne sait pas qui l'a peint, parce qu'on n'a pas d'artiste caravagesque exactement qui ait ce style-là, qui soit identifié.
J'avais vous parlé de personne. Rappelons-nous la fameuse réponse donnée par Ulysse à Cyclope dans l'Odyssée d'Homère. Cyclope, le monstre mythique, voulait connaître le nom de son tortionnaire qui venait tout juste de lui percer son œil. À ce moment, Ulysse répond à Polyphème. Utis emoi gnoma. En français, mon nom est personne. Ce grand poème épique, en grec l'Odyssée, qui tire son titre du nom du héros principal, c'est un poème de personne et c'est un poème sur personne. Ulysse est alors un paradigme de l'artiste anonyme, artiste qui ne cesse de rechercher son nom, son Ithaque, son identité. Artiste qui est personne. Parler d'artiste au nom de personne, c'est alors de lui rendre sa juste place. Pour résumer, Homère, dans l'Odyssée, semble indiquer le chemin de création. Et c'est le postulat de créer comme personne qu'il faut entendre dans le sens le plus fort, non comme personne ne l'avait créé auparavant, comme tentative d'originalité alors, mais comme si personne n'avait créé. La puissance du créateur qui pousse vers l'œuvre est alors l'affaire de l'anonyme. C'est l'énergie discrète de l'identité d'artiste qui oppose une résistance à l'œuvre et qui marque l'œuvre de son empreinte, de sa signature. L'empreinte anonyme reste toujours. Et quand l'artiste devient inconnu, oublié, perdu, l'empreinte anonyme perdure. Et c'est elle exactement qui décide de l'œuvre.
I want to know. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. Come fa la gente a concepire di poter vivere.
Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques, c'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence, hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric.
Finalement, ces gens qui ont construit ces maisons se sont eux-mêmes investis, en fait. Ils se sont investis du rôle de l'architecte. Ils ont dû travailler à plusieurs, je présume, rendre des services chez les uns, chez les autres. Et bien sûr qu'ils devaient se connaître et se nommer les uns les autres, mais il n'en reste que ces bâtiments que Raoul Haussmann a photographiés et qui sont étonnants aussi par leur, je dirais, leur picturalité, puisque je parle depuis la peinture. Alors, on est donc au croisement de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. C'est-à-dire que ces bâtiments sont à la fois des formes très intéressantes sur le plan de la géométrie, de l'implantation, des orientations, de l'habité. Et en même temps, elles ont quelque chose qui est formidable, c'est-à-dire qu'il y a une économie. Ils n'étaient pas comme dans les projets modernes, avec des bâtiments, des coffrages, un maître d'ouvrage et des budgets énormes. Ils étaient dans une progression, dans quelque chose qui se faisait un peu justement comme une relation que peut avoir un peintre à sa toile. Et à un moment donné, ils arrêtaient, soit parce qu'ils n'avaient plus le temps et que ça suffisait, soit pour d'autres raisons. Et en réalité, on a des parties qui sont enduites, blanches, et puis d'autres qui sont laissées avec la structure, la construction, etc. Et je trouve que c'est magnifique de voir comment des habitants ont pu finalement se donner ce pouvoir de dessiner leur espace urbain, leur espace bâti.
En fait, si on pense l'architecture dans sa globalité, la plus grande majorité de l'architecture, mais largement une très très grande majorité, on pourrait presque dire du 99,9%, est anonyme. L'autre régime de reconnaissance de l'architecture, c'est celle des stars. C'est un peu le même principe qu'en art, en fait. Sauf que l'architecture est un objet auquel tout le monde est confronté. Enfin, c'est le cadre de vie, c'est la vie de tous les jours. C'est donc, dans ce sens-là, elle n'a pas tout à fait le même statut que l'art. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de trouver des gens un peu entre les deux, à la fois discrets, confidentiels, qui ont fait des œuvres uniques, assez peu connues, et pourtant très bouleversantes par rapport à l'histoire de l'architecture.
Quand on parle d'anonymat, on parle tout autant de célébrité, de star, de signature. C'est la même chose à l'envers, si je puis dire.
When you're famous, no one looks at you as a human anymore. You become the property of the public.
Donc aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus de reproduction, de reproductibilité, pour parler comme le grand Benjamin. Non pas mécanisé mais numérisé, marqué, signé, ça devient fondamental pour identifier les objets, voir l'internet des objets, la traçabilité, identifier les personnes, voir la biométrie, c'est-à-dire que finalement on est de plus en plus au nom de la communication dans la surveillance généralisée, toujours l'ambivalence. Mais dans le lieu de production lui-même, les anonymes, en fait, c'est ceux qui font l'entreprise, ceux qui font la production. Et on en parle rarement. On parle rarement de l'entreprise comme d'une communauté humaine produisant collectivement des biens et des services. En fait, on parle de la marque, on parle de la signature ou on parle de l'incarnation que porte le leader, le chef d'entreprise, ce que j'appelle les technogénies des GAFAM, c'est-à-dire les Steve Jobs, les Zuckerberg ou les Larry Page ou autres. C'est-à-dire finalement, on a transféré la starisation d'Hollywood sur la starisation de la Silicon Valley, sauf que ce ne sont pas des stars du cinéma, ce sont des stars du business. Et dimension anonyme, on la voit aussi dans la société de consumériste elle-même, puisque comme il y a des vagues de consommation permanentes, une prolifération des objets, une suraccumulation, pour parler comme Armand, une suraccumulation du processus, il le décrivait bien dans une vidéo, ça m'amuse, il dit « production, consommation, destruction, production, consommation, destruction ». C'est une circularité folle de la société de consommation. Alors effectivement, là aussi, il faut des repères, donc encore la marque, l'identité notamment de l'entreprise ou le drapeau, même les politiques deviennent des marques. Trump est une marque. Et la marque s'est étendue au-delà de la sphère de la production et de la consommation dans toute la vie quotidienne. La Sorbonne est une marque, le MoMA est une marque, Picasso devient une marque de voiture. Donc il y a une prolifération non seulement de l'anonymat, mais de la starisation. Et les deux, c'est pour ça que l'imaginaire est ambivalent, les deux sont totalement complémentaires. Ce sont les deux faces de la même médaille. Donc quand on porte un regard sur l'anonymat, implicitement, en creux, évidemment, on porte un regard sur la star, la célébrité ou la signature.
Anonyme, c'est quelqu'un qui est personne. Il y a des enfants qui sont anonymes, il y a des animaux qui sont anonymes, des objets qui sont anonymes et des gens qui sont anonymes. Personne, c'est quelqu'un que je ne connais pas.
Et je pense que c'est l'indice d'une société qui célèbre non seulement l'immatériel, en fait l'économie de l'immatériel, dans laquelle tous les signes sont équivalents. Ça devient des signes de la supercomptabilité, puisqu'on est dans le gouvernement, la gouvernance par les nombres, c'est-à-dire tout est quantifié. C'est le modèle de la cybernétique, de l'ordinateur, tout devient chiffre. Les hommes deviennent des chiffres, les objets deviennent des chiffres, tout est quantifié, tout s'équivaut. Gilles Deleuze parle de, non pas de l'équivalent général comme Marx, mais de l'équivaloir généralisé, de l'équivaloir général. Je trouve la formule très bien, c'est-à-dire tout devient signe, et à ce moment-là, si tout est signe, tout non seulement peut être comptabilisé, mais la prolifération des signes fait qu'il y a une perte de sens. Plus il y a de signes, moins il y a de sens, si je puis dire. Et c'est ça la question centrale aujourd'hui.
Il n'y a que ça autour de nous. Et l'ensemble de ces objets, moi en tant que designer, m'intéresse. Et je vois bien qu'aujourd'hui, on est quasiment tous entourés de ces objets dont il n'y a pas d'auteur, et dont d'ailleurs on ne cherche même pas l'auteur, on ne se pose pas la question, ça n'a pas, peut-être même d'ailleurs pas d'intérêt. Sauf finalement de les choisir à un moment donné pour dire, ben voilà, mais tiens, qui a pensé à dessiner ce boulon, cette poignée de porte, et encore cette poignée de porte, il y a des gens qui réfléchissent et qui sont auteurs de poignées de porte. Mais il y a un ensemble d'objets comme ça qui ne peuvent pas échapper au statut de l'anonymat. Et je pense particulièrement, on les retrouve tous, je dirais, dans un établissement bien connu, à Paris en tout cas, c'est quand on va au BHV, on se retrouve dans cette immense quincaillerie, où il n'y a
en grande partie que des objets anonymes.
Je ne suis pas là pour l'instant, laissez votre message.
Oui, alors bonjour, mais qui c'est?
Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1.
Ah ben non, je ne suis pas satisfaite.
Si vous voulez recommencer, faites le 2.
Le 2?
Vous avez fait le 2. Hmm? Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1.
Le 1?
Vous avez fait le 1.
Oui.
Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfaite de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfaite d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfaite de votre message.
Ben là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais, mais je sais pas.
Votre temps est écoulé.
Hein?
Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau, ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix.
Moi, j'avais le 7.
Vous avez fait le 9.
Non, mais non, j'ai pas fait le 9.
Dites le nom de la personne à qui vous désirez parler.
Becky.
Vous avez dit Ludmilla.
Non.
Pour choisir ce nom, faites le carré. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier.
Non, mais fallait le dire, ça, l'étoile-là.
Entrez le nom au clavier téléphonique.
Becky Walters. Becky. Becky. B-E-C-K-Y. Becky.
Vous avez appelé Waketeu.
Non.
Le Waketeu est un animal aquatique nocturne.
Je discutais avec un ami qui faisait du recrutement, en fait. Et on parlait de Facebook et du fait que moi, j'ai fait le choix de ne pas être sur Facebook, personnellement. Parce que ma conviction, c'est que les relations humaines, elles doivent pas s'établir à travers des réseaux sociaux, mais sous une autre forme. Et puis, lui me disait, mais moi je fais du recrutement, et la première chose que je fais, c'est d'aller voir sur Facebook le portrait de tel ou tel individu que je vais interviewer. Et donc je me suis dit, et il était d'ailleurs d'accord avec moi, que eh bien, le fait de ne pas être sur Facebook, ça devenait une anormalité. Donc que l'anonymat, tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on le vit aujourd'hui, est en train de disparaître petit à petit dans l'esprit des gens, dans la culture commune. Maintenant, l'anonymat est en voie de disparition. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, si on maintenant se projette avec tout ce qui est en train de se déployer à grande échelle, le big data, l'intelligence artificielle, etc., ça va être, je dirais, de plus en plus vrai. C'est quelque chose, le big data, ça permet de collecter énormément de données sur des individus. L'intelligence artificielle permet de l'exploiter de la manière la plus précise, la plus ultime, et donc dévoiler un maximum d'informations sur les masses d'individus, mais aussi les individus individuels.
For the residents to be anonymous gives them license to do anything.
Residents!
Residents! Residents!
The residents, ladies and gentlemen, the residents.
Ton chauffeur VTC n'est pas censé être anonyme. Pourtant, tu te rappelles vraiment pas de son prénom. Anonymes sont tous les chats sauvages. Anonyme est l'opérateur outcall qui vous emmerde avec le script qu'il est obligé de répéter sans cesse.
Ce qui a retenu mon attention dans l'aventure des soldats inconnus, c'est qu'ils sont 8. On en connaît un, donc il y a un inconnu qui est célèbre, et puis 7 inconnus qui sont anonymes. En tout cas, ils sont tous anonymes, mais il y en a un qui est célèbre et les autres qui sont parfaitement inconnus. L'histoire est amusante puisque elle touche un objet majeur du XXe siècle, c'est-à-dire le soldat inconnu. Et j'avais fait un parallèle au début avec les ready-made. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui rassemblait le soldat inconnu et les ready-made, ou plutôt les soldats inconnus et les ready-made, en montrant un petit peu à l'emporte-pièce comment ces deux inventions avait été quasi concomitante, c'est-à-dire à la fin des années 10, 1910, j'entends, et comment elle répondait à des questions qui étaient un peu les mêmes. Donc on va revenir à l'histoire moins bien connue du soldat inconnu, qui se trouve être l'invention d'un homme, et qui est André Maginot. En 1919, pour le premier anniversaire de l'armistice, en novembre, Clémenceau est fâché puisque l'armée ne peut pas passer sous l'Arc de Triomphe puisque là, il y a un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est un monument aux morts qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morts à l'intérieur. Mais pour Clémenceau, le problème, c'est que quand on ne peut pas passer sous l'Arc de Triomphe, on ne triomphe pas. On fait autre chose, on défile. Donc il demande à ses ministres et aux plus émérites d'entre eux, André Maginot, d'imaginer une solution et très vite on s'achemine vers l'invention du soldat inconnu. Donc André Maginot va inventer une solution pour lui permettre d'éviter à avoir à choisir. Comment fait-il ? Il demande aux différents chefs des régions, on est donc en 1920 cette fois-ci, de choisir un soldat mort, anonyme et français. Anonyme et français, quelques années après la fin de la guerre. Problème, toutefois, l'armée s'exécute et on se retrouve du côté de Verdun avec 7 corps. 7 corps qui sont disposés dans des cercueils en chêne, en grande pompe, oserais-je dire, et on les a mélangés, ces cercueils, plusieurs fois pour qu'on ne puisse vraiment pas attribuer de quelle région ils proviennent. Pour la question du choix, André Maginot, qui assiste à la cérémonie, ne veut pas être celui qui va assumer un choix. Il demande donc à un jeune soldat, et là il ne restera pas anonyme lui, puisqu'il s'appelle Augustin. Augustin se rappelle à ce moment-là qu'il appartient au 6e corps du 132e régiment, et que si l'on ajoute 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Il choisit donc de faire le tour des 6 cercueils par la droite et de déposer son bouquet de fleurs sur le 6e cercueil. À partir de ce moment-là, il y a un soldat inconnu qui est anonyme et il y en a 6 autres, ou 7 autres, pardon, qui eux sont anonymes et méconnus.
Continue d'essayer d'avoir accès à cette population et en attendant, on s'occupe d'assister les personnels qui ramassent les corps et qui essayent de les identifier avant de les enterrer dignement. C'est un processus assez long puisque ces migrants qui se retrouvent jetés littéralement sur les escaliers de la morgue chaque matin n'ont pas de papier sur eux. Et donc ces procédures, d'une part, prennent très longtemps, les corps restent trop longtemps à la morgue et souvent se concluent par un échec. Et donc ces gens-là qui ont vécu l'enfer, qui ont échoué et qui sont morts, meurent de façon anonyme.
I am nobody.
Dans son texte « La rose de personne », enfin recueil de poèmes, Paul Celan dit « Le poème n'existe qu'à la condition d'être entendu, d'être reçu, mais il n'est pas certain que le destinataire soit à l'autre bout. » Et par également relation de cause à effet, ça m'a refait penser aussi à la question des migrants aujourd'hui, qui sont ces personnes sans sépulture, ces anonymes qui n'ont plus d'histoire, qui n'ont pas d'histoire, qui peut-être ont disparu. Et pour en revenir également à Paul Celan, je voulais juste citer quelques vers de ce poème « La rose de personne » parce que je pense que ça nous permettra de refermer la boucle et de revenir au présent de ces émigrés, de ces migrants, de ces réfugiés qui ont perdu toute singularité. Alors je cite Paul Celan « Personne ne nous repétrira de terre et de limon, personne ne bénira notre poussière, personne. »
Shouldn't you be with your own tribe or something?
Qui êtes-vous?
Je suis le nouveau numéro 2.
Qui est le numéro 1?
Vous êtes le numéro 6.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Quand je suis sorti de l'école, mon premier objectif, c'était de faire le graphisme sans avoir un style. Car justement, je détestais le style de mes confrères. Et je me suis bien rendu compte qu'après 25 ans, que cela n'est impossible. On ne peut pas travailler dans ce domaine-là sans laisser trace sous forme d'un style. Finalement, on est reconnaissable.
Chère personne, mourir n'est pas la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Tu vois, je suis mort depuis 3 jours, et depuis 3 jours, j'ai enfin trouvé la paix. Tu m'as souvent dit que ma vie ne tenait qu'à un fil. Désormais, c'est la tienne qui ne tient qu'à un fil.
Inde liquidée.
Tu finiras donc par te faire un nom toi aussi, et alors là, tu auras de moins en moins de temps pour jouer. Et ce sera de plus en plus dur. Et un jour, tu rencontreras un homme qui se sera mis dans la tête de te faire entrer dans l'histoire.
J'ai été sensibilisé à l'anonymat en 1968 avec l'atelier de fabrication d'affiches des Arts Déco auquel j'ai pas mal contribué. Et de fait, la question qui se posait dans les amphis, c'était effectivement, qui était remis en cause, c'était un petit peu la notion de création, la notion de propriété, la notion du fait que justement la création était remise en cause et qu'on ne faisait jamais que recycler des choses sans les créer. Donc voilà.
Majesté a bien reçu ma lettre anonyme.
Où est la reine?
Au-dessus, sire. Je vous guide.
La figure académique de l'œuvre d'art, qui est finalement reconnue par le fait que l'objet est unique, qu'il est signé, est complètement remis en cause en ce moment et était quelque chose peut-être un peu totalitaire, c'est-à-dire que la figure un peu totalitaire de l'œuvre d'art définitive, fixe, signée par un auteur qui va être sacralisé, un artiste dont on va pouvoir valoriser le nom, et finalement battue en brèche par ces pratiques qui sont à la fois collectives, collaboratives, éditoriales, et qui dispersent, on va pas dire que ça annule le nom, mais les noms, finalement les marques, sont dispersés dans ces pratiques.
Sans nom, je ne suis pas sûr de comprendre.
L'Empire du Soleil Levant, connu pour sa discipline, est intransigeant avec ses bourreaux. Ceux-ci sont 5 gardiens désignés d'office qui apprennent le jour même qu'ils sont les malheureux élus. Refuser donne lieu immédiatement à un licenciement. 5, oui, chacun est placé devant un bouton sur lequel ils doivent appuyer tous ensemble. 4 sont faux et un seul commande l'ouverture de la trappe, sans que jamais le gardien, qui a effectivement causé la mort du condamné, ne sache que c'était le sien.
What is your name?
My name is Nobody.
Excuse me?
My name is Xebiche. He who talks loud, say nothing.
He who talks loud. I thought you said your name was Nobody.
I prefer to be called Nobody.
C'est un peu la même chose que les photos d'école qu'on a quand on n'a pas marqué les noms au dos au moment où on connaissait le nom de tous les élèves de sa classe. Eh bien, il y en a qui échappent. Et je dois dire que c'est aussi l'épreuve de la mort. Quand on a des personnes autour de soi qui meurent, eh bien, finalement, on est la seule personne à pouvoir renommer les personnes qui nous entouraient et qui nous étaient chères ou qui ne nous l'étaient pas. Ce n'est pas forcément ça, mais c'est tout d'un coup, on a des fantômes et les noms vont et viennent. Et des fois, on les retrouve et puis on les réoublie.
Tous ceux qui reposent au fond des mers sont anonymes. Les décideurs sont anonymes. Vous êtes anonyme. Vous êtes anonyme. Vous êtes anonyme.
Radio Personne avec Anaïs, Anne, Antoine, Antoine, Aude, Camille, Enrico, Joël, Lina, Margot, Nathalie, Olympia, Orlan, Pascal, Pascal, Philippe, Philippe, Pierre, Rick, Sophie, Stéphane, Sylvie. Comment t'appelles-tu ?
Siri. Ravi de faire votre connaissance.
Prise de son, Yann, Laure, Stéphane. Mixage, Olivier. Coordination, Irène. Attaché de production, Chouchane. Radio Personne, un ACR d'Alexandre, réalisé par Véronique. Cet atelier de création radiophonique est une commande de France Culture et du Centre National des Arts Plastiques.
Alexandre Périgot, l'anonyme, s'est dit dans l'émission, c'est ce qui n'a pas nom. C'est quelqu'un qui laisse peut-être plus de place à l'existence de l'être, dans son étendue, comme diraient les philosophes, dans son étang, dans sa façon d'exister, ou qui revendique la chose plutôt que celle ou celui qui l'a faite. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette assertion ?
Je serais d'accord, tout en sachant que lorsque j'ai été confronté à cette question de l'anonymat, c'était vraiment axé sur le rapport que l'on entretient avec une œuvre dont on ne connaît pas l'auteur, et que ça convoquait cette question de la subjectivité, à savoir que nous entretenons un rapport au monde avec les choses, avec les objets et surtout avec l'art, en rapport avec la notion de notoriété, de célébrité. Et lorsqu'il n'y a pas de nom, eh bien, nous n'avons que notre jugement. Nous sommes nus devant l'œuvre.
Donc votre atelier de création pose la question du regardeur ou de l'écoutant par rapport à des objets qui sont eux très bien identifiés, mais dont on n'identifie pas l'auteur, et qui pour le coup nous poserait problème. C'est bien ça le sens de votre intervention.
L'atelier de création, lorsque je l'ai imaginé, c'était partir d'un protocole qui n'en est pas un, mais de quelque chose qui est célèbre, hein, qui est une symphonie de Moussorgski, qui s'intitule « Tableau d'une exposition », et qui consistait donc, qui est une œuvre à part entière, et qui fait appel à la question synesthésique de visiter une exposition par la musique. Et j'avais envie d'essayer de transposer le principe qui est mis à l'œuvre dans cette symphonie avec la radio, de visiter une exposition simplement avec des commentaires, des bribes qui ont comme point commun la question de l'anonymat.
Dans ce que vous décrivez, moi j'y vois plutôt, si je puis dire, de l'invisible. De mon point de vue, une œuvre anonyme est quelque chose d'extrêmement présent, qui est un peu hors du temps. C'est sans doute ce que montrait alors à votre corps défendant ou sans que vous en ayez eu vraiment l'intention, l'exposition du CNAI à Pantin, où étaient accolées des images d'objets, de tableaux, d'œuvres d'art, de performances qui étaient anonymes. Moi, j'ai eu des choses, justement, tout égales. Un objet, donc un cendrier, une tasse à café, un tableau représentant une vierge, que sais-je encore, toute chose anonyme est toujours présente, qu'on ne peut raccrocher ou rapprocher de rien d'autre que ce qu'elles sont.
Je pense que dans votre question, on touche vraiment cette notion de la part de subjectivité que l'on attribue lorsque on est devant une œuvre qui n'a pas d'auteur, dont on ne connaît pas l'auteur, et donc se pose la question de la valeur, et tout à chacun fait, établit ensuite une projection personnelle par rapport à ces questions de l'anonymat dans l'œuvre, de ces œuvres qui n'ont pas d'auteur. Mais si on s'y intéresse de plus près, on se rend compte que on n'établit pas la même projection sur ces œuvres selon leur statut. Pourquoi ? Parce que certaines œuvres sont anonymes. Il y a ce qu'on peut, on pourrait classer hein, dans les anonymes de guerre. Je pense à ce poilu dont il y a la seule source que l'on ait, c'est qu'il était avant à Mondovi, une ville de la période de l'Algérie française, et qu'au moment de la guerre d'Algérie, juste avant l'indépendance, eh bien, on a rapatrié les œuvres du musée d'Alger, ainsi que les œuvres des provinces, dont cette statue. Et dans la panique, eh bien, on a perdu les sources. Alors, des fois, c'était abîmé, hein, la signature s'est abîmée, mais on a perdu les documents. Et certaines œuvres se sont retrouvées anonymes, dont ce poilu. Actuellement, il est à Éragny, une ville de l'Oise. Eh bien, ce poilu, il y a une plaque dessous et il y a écrit « Ce poilu a été adopté par la ville d'Éragny. Il était avant à Mondovi, en Algérie, ville natale d'Albert Camus, pupille de la nation. » Alors, c'est ces indices qui nous permettent d'établir un rapport avec l'œuvre, et c'est un peu la même chose lorsqu'on est devant des œuvres qui ne sont pas signées, dont on n'a pas l'auteur, et on va établir par notre sensibilité, par notre propre jugement, un rapport frontal avec. Et ce principe d'équivalence, il va peut-être aussi, encore une fois, se distinguer selon les sources. Je pense, entre autres, d'une possibilité d'être confronté à l'anonymat avec une œuvre d'art. Ce sont des œuvres qu'on classifie, et il y en a beaucoup au musée de Villeneuve-d'Ascq, dans ce qu'on appelle l'art brut. Et dans l'art brut, il y a un département des œuvres qui sont issues de l'hôpital psychiatrique, puisque les tuteurs, les familles, ne veulent pas que ces œuvres soient signées. Et on a un exemple, entre autres, avec Dubuffet, hein, qui ne donnait que les prénoms de certaines œuvres. Mais ensuite, il y a aussi d'autres raisons qui vont faire que l'œuvre est anonyme.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors que l'anonymat est une sorte d'aura qui donne aux choses, aux êtres qui sont anonymes, une distinction sans singularité ?
On peut l'envisager effectivement en rapport avec la question de l'aura, puisque depuis Benjamin Adorno, la question de l'aura de l'œuvre d'art est la question de sa reproductibilité, mais cette aura n'est pas une aura qui nous aura été signalée, signifiée, objectivée, mais elle nous appartient. C'est à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons produire cette aura. Elle n'est pas le fruit d'un système, je dirais, autoritaire, qui est celui de l'éducation ou de la médiation qui est à l'œuvre. Mais nous avons nous-mêmes la responsabilité personnelle, propre, d'établir notre jugement et d'attribuer ou non une aura ou un certain degré d'aura à l'œuvre.
Une œuvre anonyme, du coup, serait peut-être aussi quelque chose qui nous rapprocherait d'une vision de l'immanence, voire de l'incréé, comme si cette chose était là de toute éternité, comme si nous n'avions pas vu le moment où elle avait été créée, et comme si sa présence était elle-même infinie.
Oui, elle l'interroge, en tout cas, les origines de la création. Et je pense à ce passage que l'on a entendu précédemment, mais de Camille, qui parle de l'art pariétal et de la question du visage, qui se pose déjà dans les grottes rupestres, et à partir, évidemment, qui sont des œuvres anonymes. Et les autres œuvres participent aussi de cette intemporalité. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que la notion d'anonymat est complexe. Et cette complexité nous apparaît, entre autres, du fait qu'une œuvre peut être anonyme parce qu'on a perdu la signature, une œuvre peut être anonyme par des systèmes de causalité très divers, mais aussi, ça peut être une stratégie. Et cette stratégie, c'est de vouloir se protéger ou de vouloir user de l'anonymat pour toucher une certaine célébrité. Et on le voit entre autres dans la musique, mais on le voit aussi à l'œuvre dans des productions contemporaines.
Est-ce que tout auteur, lorsqu'il est lui-même, lorsqu'il ne signe plus ses œuvres, lorsqu'il a simplement une vie comme la vie que tout le monde mène, n'est-il pas en proie à devenir anonyme? J'en veux pour exemple la conférence que vous avez donnée au mois d'octobre 2017 à la Cité de l'Architecture, où vous nous aviez invités dans une promenade parisienne à partir de la maison de la célèbre chanteuse Dalida, qui, elle, est une maison qui n'est pas tout à fait anonyme, pour nous entraîner vers des maisons de célébrités qui ressemblent aux maisons de n'importe qui, des appartements dans des avenues parisiennes que tout le monde pourrait occuper. Donc c'est comme si l'anonymat venait se refermer sur la célébrité et venait l'enfermer.
Eh bien, cette question, elle touche à ce qui conditionne la question de l'anonymat. L'anonymat n'a de raison d'être que en miroir de la célébrité et de la notoriété. Et effectivement, lorsque j'avais commencé ce travail à partir de la maison de Dalida, c'était une observation. C'est que lorsque les gens visitent Montmartre, il y a des touristes qui sont là par centaines et par jour, et on leur dit ici a vécu Picasso, ici a dormi Modigliani, ici a travaillé Toulouse-Lautrec, et à un moment ils passent devant une maison qui est quelconque, hein, qui est une maison en pierre meulière, comme il y en a des milliers à Paris et autour, eh bien, à un moment le guide leur dit « et ici a vécu Dalida ». Et là tout le monde fait « ah ». Ça m'avait beaucoup marqué et je me suis intéressé sur la plus-value sémantique qu'on établit par rapport à l'architecture, où il suffit de dire qu'une célébrité a habité, a vécu, a dormi ou est morte dans ce lieu pour transformer, justement d'introduire une subjectivité et de lire et de regarder l'architecture autrement. Mais c'était aussi de reposer la question de notre rapport à l'architecture en la contrariant par l'approche de la célébrité et de la notoriété, puisque le postulat était « est-ce qu'il n'y a plus que les maisons de stars pour nous faire rêver ?» Donc c'était vraiment dans la volonté de réinterroger la condition même de l'architecture. Mais en tout cas, l'anonymat est indissociable des notions de célébrité et de notoriété. Et l'anonymat, c'est une possibilité pour s'échapper ou pour tout simplement revendiquer un nouveau statut.
Merci Alexandre Périgord.
Création en air se réécoute et se podcast sur franceculture.fr. Après le voyage à Nantes et le CNAI de Pantin, le Musée des Beaux-Arts de Rennes accueillera l'exposition d'œuvres anonymes « Mon nom et personne » d'Alexandre Périgaud à partir du 14 décembre. Dimanche prochain à 23h sur France Culture, balade sonore au Château d'Oléron. Restez avec nous, dans un instant, nous levons l'ancre pour une nuit d'archives.